3h27, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101, avec vous jusqu'à 10h. Mon nom, c'est Marceau, son nom à lui, l'anticonformiste, c'est Jean-François.
Ça n'a pas de bon sens, l'anti-réglementation pour aller au bout.
Exact. Le gars qui roule à 119 sur la route. Criminel.
Criminel,
119
toujours.
Sur l'autoroute.
Hey, je viens de la Basse-Ville, là, quand même. Là.
Ouais. Puis tu devrais demander, tu sais, Antonine, qui est très conformiste, là, tu devrais demander à Antonine.
Ça tu roule à 100.
Tu roules-tu à 100?
Ouais, je vais lui demander.
Parce que, tu sais, on peut être bien sûr sur bien des sujets. Là. Ah, ben moi, là, j'ai toujours respecté tout. C'est rare, ces gens-là.
Est-ce que tu fais des arrêts complets à chaque arrêt stop?
Moi, c'est souvent américain.
Ben, c'est ça.
J'ai des collègues, des chums qui m'entourent, qui ne font aucune lumière, aucun stop quand ils travaillent le matin.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est que c'est pas dans ce studio.
Non, c'est dans un autre studio.
Hey, on a-tu fait le saut l'autre jour? On était à lumière rouge pour tourner à gauche. Tout d'un coup, il y a un véhicule qui passe à notre droite.
Tchoum!
Qui donne un coup de volant à gauche. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah, OK, c'est cette personne-là.
Oui, c'est la personne qui s'amuse de l'autre côté.
Exact.
À notre station sœur.
On pensait que ça allait être une victoire du Canadien encore. Finalement, ça ne l'a pas été. Canadien qui a perdu 4-3 hier face au Wild du Minnesota. Ça a été en période de prolongation. Je ne sais pas si tu as vu, Jeff... Suzuki, il y avait une pénalité, là.
Oui.
Clairement une pénalité, puis les arbitres ont laissé passer. Puis la pénalité qui a donné un but au Wild du Minnesota en troisième période, c'est la pénalité de Philippe Dano, qui n'en était pas une. Là. Son bâton a resté pris, il a lâché son bâton, l'arbitre a donné une pénalité quand même, ça a donné lieu à un but du Wild
puis
du Minnesota.
Dans bien des situations, je dis rien sur pénalité-là,
ouais.
C'est comme ça aligne, puis... mais là, c'est qu'il y a une coupe de non-call de l'autre bord,
ouais.
Que ça, tu sais, Demidov, je me souviens pas c'était quand dans le match, mais qui se fait littéralement péter son bâton. D'habitude, un coup de bâton qui casse un bâton, là... T'as beau trouver que ça c'était pas un coup fort puis que le bâton aurait pas dû péter.
Non, c'est une pénalité automatique.
C'est un automatique. Puis là, je l'ai vu en fin de semaine dans la LHMQ, ça m'a mis en sacrement.
Ouais.
Je l'ai revu hier. C'est supposé être un automatique.
En effet.
Ouais, Martin Saint-Louis qui demande à ce que les arbitres soient un peu mieux que ceux qui ont eu hier soir. C'est ce qu'il semblait dire dans la conférence d'après-match. Là. Donc, conférence
c'est un gros point.
Ouais, c'est un gros
contre
point.
Contre le Wild. Qui
Jacob
est
Debèche qui a cédé au premier tir, mais qui a quand même pas mal fait là, durant toute la partie.
C'est drôle parce que c'est encore un match, 4 buts sur 24 tirs, c'est pourri, puis il y a des buts faits. Mais quand tu regardes le match, tu te dis, Krim, il a encore fait les gros arrêts qui a tenu le Canadien dans le match toute la game, il a permis d'aller chercher un point. Mais tu sais, il aurait dû être meilleur, puis le Canadien serait parti avec la victoire, puis je vais pas tout y excuser, mais il a fait les gros arrêts, puis on sort avec un
point. Puis on en reparlera tantôt, mais sérieusement, là, on a des joueurs chez le Canadien qui sont le fun à voir jouer, le fun à voir évoluer, puis ils sont très, très jeunes, donc j'ose pas imaginer ce que seront ces joueurs-là dans 5 ans. -21, avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de -23. C'est un peu de neige pour ce soir, mais sinon, pour aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée avec un maximum de -10. Il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021.
Toujours du rouge pour l'accès aux ponts Pierre-Laporte, direction nord, pas catastrophique encore. Puis sur la Rive-Nord, c'est encore super beau.
C'est la rentrée à l'Assemblée nationale. Marois Risky qui revient. Ça fait beaucoup jaser. Il y a des documents aussi qui se sont rendus en cours, des documents juridiques sur l'affaire Risky et Mme Geneviève Hinze. Là, on en sait un peu plus là, sur le fameux fling-flang dont Marois Risky parlait.
5 fling-flang.
Ouais, puis le gros de la chose, le gros qui a été sorti hier par Radio-Canada en consultant les documents, c'est que Geneviève Hinze, selon Marois Risky, puis tout reste là, au conditionnel, puis ça reste des allégations, mais selon les documents que Marois Risky utilise pour se défendre en cours face à la poursuite de Geneviève Hinze qui dit « Tu m'as congédié pour rien », ben là, Marois Risky doit dire « Non, je t'ai congédié pour ça ». Et ce qu'elle dit, Marois Risky, c'est que Mme Hinze argumentait qu'il y avait des zones grises sur des règles d'éthique puis qu'elle était déçue que Mme Risky tente pas de trouver une solution à l'intérieur des dites zones grises pour satisfaire les besoins de M. Rodriguez. Elle aurait ignoré des directives répétées de Mme Risky de pas utiliser des ressources parlementaires à des fins partisanes et c'est ça qui aurait mené à son congédiement pour faute grave en novembre dernier. Puis un des exemples qu'on donne. Le directeur de cabinet adjoint, Jamie Saint-Hilaire, qui est aussi un proche de Rodriguez, ben, il partageait comme son temps entre l'aile parlementaire et rédiger la plateforme électorale du Parti libéral du Québec. Malgré le fait que Mme Risky disait non, tu peux pas faire ça. Pis, fait que c'est le genre d'affaire de zone grise, de ce qu'on comprend, là, qui était un peu utilisé par le clan Rodriguez / Geneviève Hinds. Fait qu'on verra bien où tout ça va aller, mais là, on a plus de détails. On a une partie de la version des faits de Marois Risky.
Mais on nous dit que Rodriguez était vraiment au courant. Ça, c'est toujours selon Marois Risky, comme tu le dis, mais Pablo Rodriguez lui-même, qui disait n'avoir rien à se reprocher, souhaitait utiliser des ressources à l'Assemblée nationale pour payer du travail partisan. Par exemple, le 6 novembre, lors d'un entretien téléphonique, il aurait dit vouloir embaucher deux nouveaux conseillers spéciaux pour l'aider à répondre au livre bleu du Parti québécois sur un éventuel Québec souverain. À qui il parlait? Il parlait à Marois Risky. Donc, lui est au courant, là.
Dans ce cas-ci précisément, si ce que Marois Risky dit est vrai.
Et Jeff, ce que je trouve hallucinant, c'est... Tu te souviens de la députée Lacoyanne?
Oui.
Tu sais, les fameux textos mm-hmm. qu'on a vus passer. Ah oui, elle a dit que c'est pas elle, ça reste.
Pablo s'est retrouvé dans son bureau à l'Assemblée nationale avec plein de gens qui payaient cash des cartes de membres.
Ben, c'est ça, là.
Il était au courant de rien.
Il y avait beaucoup d'argent sur la table.
Ben oui.
Fait que tout ça va être rendu public. Ça va se ramasser en cours. Là. Madame Geneviève Hinds n'a toujours pas répondu à ce que Marois Risky a mentionné. Ça va se faire probablement peut-être aujourd'hui ou dans les prochaines heures. Mais il faut démêler tout ça. Et si j'étais Charles Milliard, là, aujourd'hui, je parle de ça, c'est clair. Puis je demande à ce que la vérité sorte. Là.
Bien sûr.
Ben là, on attend déjà les résultats de l'enquête du juge Fournier qui devait sortir à la fin janvier de mémoire. Là, on comprend que ça va sortir dans les prochains jours. On a tout bien hâte de voir ça. En attendant, puis je mets ça dans la catégorie, c'est pas quelque chose de bien grave, mais ça m'a fait sourire ce matin. Le nouveau PDG de la SAAC, Serge Lamontagne, faisait récemment campagne auprès de Pablo Rodriguez et se préparait à devenir candidat pour le Parti libéral du Québec. C'est ce qu'a appris le Journal de Québec, information qui a été confirmée par une porte-parole de la SAAC qui dit que, préalablement à son embauche, alors qu'il était retraité, M. Lamontagne avait effectivement eu des discussions pour une possible candidature, mais on affirme que M. Lamontagne a mis fin à toute discussion aussitôt qu'il a été informé que sa candidature avait été retenue par le CA. Le journal précise que Serge Lamontagne n'a pas participé aux activités de financement de Rodriguez, n'a pas contribué à sa campagne. Ce qui est particulier, c'est que le cabinet du ministre des Transports, Jonathan Julien, n'était pas au courant pantoute de cette situation-là. Et là où ça devient peut-être un peu problématique, c'est que selon le code d'éthique des administrateurs de la SAAC, ben, les hauts dirigeants doivent être impartiaux et les intérêts doivent être divulgués par écrit au président du CA, alors que M. Lamontagne n'a jamais déclaré qu'il y avait un certain lien là, avec le Parti libéral du Québec. Fait que là, il y a peut-être une petite problématique, mais comme je dis, pour moi, j'en ferai pas tout un cas, là. Le député de Charlebourg, Jonathan Julien, ne se représentera pas aux élections provinciales. Via les réseaux sociaux, il explique que le départ de François Legault aura été un facteur déterminant de son choix. M. Julien va rester en poste jusqu'à la fin de son mandat. Il est actuellement ministre des Transports, a aussi occupé le poste de ministre responsable de la capitale nationale de 2022 à septembre dernier.
Il a dit que c'est le départ de François Legault qui le fait réfléchir et c'est la raison pour laquelle il part.
Il a dit que c'était une bonne partie. Là, en fait, pour utiliser les termes exacts, il a dit que c'était un facteur déterminant.
Parfait. Allons voir maintenant. On est des journalistes d'enquête ici. Tout le monde sait ça. Hein?
Oui.
Sur Québec 125, les projections, s'il y avait des élections demain matin, PQ passe tempête à 36%. PCQ est bon deuxième avec 24%. Et devinez qui récolte un maigre 16%? Jonathan Julien. Mais si François Legault était resté, il serait resté aussi.
Ça fait réfléchir Québec 125.
Ah oui!
Parce que les derniers cas de démission qu'on a vus,
ouais.
Quand on allait voir sur Québec 125, on disait « Ah, la CAQ est troisième ou quatrième. Mm-hmm. » Toujours autour de ça, là, d'un petit 15%.
Oui, exact.
Ça fait réfléchir.
Oui. Puis en même temps, le message qu'il envoie en disant qu'il ne se représentera pas, puis bon, c'est François Legault qui le fait réfléchir, puis là, il s'en va et tout mm-hmm. ça, c'est « Allô les employeurs, Je suis disponible.
Oui. Mais dis-moi, quand François Legault a refait son conseil des ministres au mois de septembre, il me semble qu'il avait demandé aux gens d'assurer qu'il allait se présenter à la prochaine campagne électorale.
Ça fait une couple.
Pour avoir une équipe solide. Ah, ben là, ah, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, est partie. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, part. Ah, là, le ministre des Transports, Jonathan Julien, part. Quand même trois ministères importants.
La circonscription de Geneviève Guilbeault, là...
Louis Hébert.
Ouais,
ouais, on avait fait le même exercice sur Québec 125.
Attends un peu. Geneviève Guilbeault avait peut-être toutes les chances de passer dans son secteur. Pourquoi on serait de mauvaise foi
comme
ça?
Ouais, c'est vrai.
G-H-I-J-K-L... K-L-L-L, Louis Hébert.
Louis Hébert. On oublie aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une élection partielle dans Chicoutimi. André Laforêt était parti pour être mairesse de Saguenay.
Geneviève Guilbeault, c'était pour sa famille, hein, c'est ça?
Oui, les enfants.
OK. Projection dans Louis Hébert, s'il y avait des élections demain matin, PQ passe, tempête à 40%.
Bon. Et voilà.
Allô les employeurs, je suis disponible.
Ouais, mais maintenant elle joue de la flûte avec sa fille sur ses médias sociaux. Le
c'est
samedi.
Correct, je trouve ça cute.
Ben oui, c'est cute.
Je trouve ça vraiment cute. Elle a le droit d'avoir sa petite vie comme ça. Ça c'est la vraie vie en passant.
Oui.
Là, être avec nos enfants puis profiter de la vie. Mais il y en a qui ont vu une campagne de marketing Geneviève Guilbeault parce qu'ils la détestent. Moi je la déteste pas Geneviève Guilbeault. Tu sais, je suis capable de voir la mère de famille qui est capable de s'occuper de ses enfants.
Ben oui.
L'autoroute de la capitale et l'autoroute Robert-Bourassa ont presque déjà atteint leur capacité maximale selon les données extraites par le ministère des Transports et de la Mobilité Durable qui ont été sorties là, pour le Journal de Québec. L'affaire, c'est que c'est drette là que vont devoir passer les voitures qui sortent du troisième lien Québec-Lévis proposé par la CAQ, le fameux corridor central. Le journal explique qu'une situation typique d'un jour de semaine à l'heure de pointe du soir, l'autoroute de la capitale accueille à la hauteur de Pierre-Bertrand plus de 11 000 véhicules dans les deux directions, soit près de 1 500 véhicules par heure par voie. C'est tout près de la capacité maximale. Robert Bourassa, auteur Wilfrid Hamel, à l'heure de pointe du soir, le débit par voie par heure atteint presque 1 300 et dépasse 1 500 passages si on retire la voie réservée aux autobus et covoiturage, qui est beaucoup moins empruntée. Fait qu'à ce moment-là, on viendra encore une fois frôler la capacité maximale. Le ministère qui répond simplement qu'il faudra notamment attendre la conception finale du tracé du projet afin de déterminer précisément les impacts de la nouvelle infrastructure sur le réseau actuel. On s'entend que là, c'est des chiffres qui font juste montrer ce que tout le monde sait. Là. Et en sortant là, le troisième lien, je veux dire, on le savait que ça allait arriver dans une place où c'est déjà tough, la circulation.
Oui, on en jasait avec Denis dans le pit stop. T'sais. Tout est en place pour faire scraper ce projet-là. Puis là, ben, les gens qui étaient du côté du troisième lien sont en train de disparaître. Là, Jonathan Julien le voulait, ce fameux troisième lien-là. Là, lui, il annonce qu'il ne continue pas. Fait que le nouveau chef de la coalition Avenir Québec, lorsqu'il sera élu, sera en mesure d'annuler ce projet-là sans aucun problème.
Oui, sauf si c'est Bernard Drainville parce que lui, il veut.
Ouais, ce sera pas Bernard Drainville. Là. J'y souhaite pour lui. Là,
bon,
mais
oui.
C'est Christine Fréchette qui a le vent dans les voiles actuellement. Puis tu sais, je sais pas avec qui on avait cette discussion-là hier, mais probablement que Christine Fréchette... Ah, c'est avec Maître Bellemare. Probablement qu'avec Christine Fréchette, lorsqu'elle arrivera au pouvoir, ça va être terminé, le projet du troisième lien.
Oui.
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, pendant ce temps qu'il était de passage hier à l'hôtel de ville de Lévis pour une rencontre avec le maire, Stephen Blaney, voulait notamment réaffirmer son appui ferme au projet d'un troisième lien à l'est tel que désiré par le maire Blaney. Les enjeux de gouvernance municipale, de sécurité publique, de services de proximité et de relations entre les municipalités et le provincial ont aussi été abordés. Et fait bien intéressant, devant les médias à la sortie de la rencontre, Éric Duhaime a mentionné avoir rencontré l'ex-maire de Lévis, Gilles Laulier. Les discussions qui se poursuivront pour voir avec lui comment il pourrait collaborer et avancer les idées conservatrices. Fait qu'est-ce que Gilles Laulier pourrait devenir un candidat conservateur? On n'est pas rendu là. On traversera le troisième lien quand on sera rendu au fleuve, mais il y a au moins des discussions.
Gilles Laulier va devenir un député conservateur. Y a-t-il des gens qui y croient, ça?
Il n'a jamais fermé la porte à un retour en politique provinciale lorsqu'on lui posait des questions en conférence de presse.
Mais non, il n'a pas donné un substantiel montant d'argent pour qu'il puisse...
Oui, c'était 200 quelques mille. Là.
Combien?
Je vais de mémoire. Je me semble que c'était 234 000, mais c'est au-dessus de 200 000.
Puis à quel âge, M. Laulier?
Il a 71 ans. Je vais de mémoire aussi, mais il a plus de 70 ans.
Puis...
C'est un ancien député libéral.
255 000 voilà. les allocations de transition et de départ de M. Laulier.
Puis là, il veut revenir en politique.
Apparemment. Ben, il n'a jamais fermé la porte quand on lui posait la question. Puis souvenez-vous, il a toujours dit « L'homme pour le troisième lien, c'est du M. » Puis le troisième lien, c'est... Ben, c'est son regret en politique là, de ne pas avoir réussi à ce que le projet soit en train de se construire lorsqu'il a quitté la mairie de Lévis. Donc, est-ce qu'il va revenir seulement pour ça? Parce que si ça revient seulement pour ça, là, je veux pas être mauvais joueur avec le Parti conservateur du Québec, mais on le sait, là, ils formeront pas le gouvernement après la prochaine élection. Là.
Non, ça leur prend.
Ils vont être à l'Assemblée nationale, mais ils formeront pas le gouvernement.
Ouais, c'est exactement ce qu'on disait, ben, ce que je disais hier. C'est Éric Duhaime, pour se faire un peu plus aimer et moins détester, ça y prend une place à l'Assemblée nationale.
Oui.
Où il va avoir une couverture médiatique comme tous les autres chefs, comme toutes les autres partis, puis il n'aura pas besoin de se concentrer sur des sujets qui sont un peu weird.
En effet, tu as entièrement raison.
Il n'y aura pas le choix. 6:43, on s'arrête. 418-971-1021, 418-971-1021. Si vous avez des choses à me dire, il se passe quoi que ce soit sur la route. Circule, Max.
Toujours pas mal limité là, au secteur des ponts pour passer de la rive sud à la rive nord. Sur la rive nord, ça commence tranquillement pas vite à ralentir sur Capitale-Ouest entre Beau-Royal et Seigneurial.
Boulevard 102-1. Marceau.